Rappelons-nous, nous sommes dans Higueret Hatshuva et on essaye de comprendre comment fonctionne la relation que nous avons avec Dieu. Pourquoi ? Puisqu'en fait, la grande question qui nous dérange depuis le début du chapitre 4, les trois premiers chapitres c'était l'aspect technique de la Hatshuva, ça je ne m'arrête pas dessus maintenant, là on rentre dans les coulisses, la grande question qui nous dérange, c'est comment fonctionne la Teshuva? Comment fonctionne la relation que nous avons avec Hachem? On a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une mitzvah et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avera. D'accord? Comment ça se fait que lorsque j'accomplis une mitzvah, je m'attache à Dieu, lorsque je transgresse une avera, je me détache d'Akadosh Baruch Hu? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se comportent comme il faut, et qui avec ça, vivent mal. D'autres personnes qui se comportent pas comme il faut, et pour autant vivent bien. Donc on a beaucoup de questions sur le système, des questions que M. Benita aurait posées, et qu'il a posées. Une très bonne question. En d'autres termes, ce qui nous dérange, c'est que le système a l'air, si je devrais résumer en un mot, il a l'air incohérent.
Bon, calme, ouais.
Non, c'est de la philo.
D'accord. Non, mais il est incohérent. C'est-à-dire, c'est pas cohérent, c'est pas normal.
Non, la conscience, l'inconscience.
Oui, ça veut dire normalement, et un système, il doit marcher.
Tu fais du bien, tu reçois
exactement,
du bien.
Exactement, doit être clair.
Ah, ouais.
Pour répondre à cette question.
Mettre un compteur.
Il faut, comme on a expliqué, il faut ouvrir le capot. Faut voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 4? Dans le chapitre 4, on s'est arrêté longuement sur l'idée comment, à l'intérieur de mon âme, il y a le nom de Dieu. Donc la puissance qu'Hachem a mis dans le corps d'un juif, dans le corps et dans l'âme d'un juif. Une puissance que même les anges n'ont pas. Donc ça déjà c'est pour te permettre de comprendre à quel point Dieu y t'a mis un moteur exceptionnel. Ok, maintenant dans le chapitre 5, qui est un chapitre pas facile, pas facile à comprendre, pas facile à digérer, facile à comprendre, vous allez voir il est pas compliqué, mais c'est un chapitre qui va nous mettre face à la réalité, qui va nous expliquer, maintenant que je t'ai expliqué, l'énergie divine que tu as en toi, comment Chelek Hachem Amo, comment tu as une partie de Dieu en toi. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe lorsque tu fais une avera. La déconnexion absolue qui se passe lorsque tu fais une avera. Et donc, c'est un chapitre qui n'est pas facile, mais évidemment, une fois qu'on a compris la puissance que j'avais, la puissance que j'ai perdue en faisant une avera, là, on pourra arriver progressivement au chapitre 5, chapitre 6, dans lequel on va expliquer comment la Teshuva peut réparer tout ça. Comment, en vérité, la Teshuva est une force extraordinaire. Qui peut réaliser l'impossible. Réaliser l'impossible, je dis bien. Comment renouer avec Hachem alors qu'on a coupé tous les ponts. D'accord ? C'est ce qu'on va développer progressivement dans les chapitres qui suivent. Alors on y va. Vehine, page 211, chapitre 5. Vehine, Hamshachat, Vihiridat Anefesh Elokit Lolamazé, Leitlabesh Beguva Adam. La dérivation et la descente de l'âme divine dans ce monde. Pour se revêtir du corps de l'homme, en d'autres termes, on va parler clairement. La Neshama, elle vient de chez Hachem. Elle est descendue. Elle est arrivée dans mon corps. Le corps de Mendy Asoulin, qui est devant vous, en train de vous parler. Très bien. Nimshecha, mi prinat timiut ma kor adibur. Ou hevel elion emromas beot et tata akanal. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la Neshama. Nous, on aurait pu dire, bon, c'est vrai que la Neshama, lorsqu'elle était en haut, elle était une grande source, elle était à un grand niveau. Mais entre-temps, elle a fait du chemin. Il a dit, elle a fait du chemin depuis, bon, très bien, ça fait très longtemps. Je te dis non. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque Dieu t'influe la Neshama, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mis tout son être à l'intérieur. Au point que cette Neshama, qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas, elle restait la même. Elle restait aussi forte. Elle n'a pas bougé. D'où on apprend ça? On apprend ça parce que, rappelez-vous, c'est une idée qu'on avait expliquée dans le chapitre précédent du Tanya. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé dans les narines d'Adam une âme de vie. Vous vous rappelez, on avait expliqué dans le chapitre 2 du Tanya la différence entre parler et insuffler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui se rappelle la différence? On avait dit la différence entre parler et insuffler. Parler, je vous parle maintenant, je vais vous parler pendant une heure. Pourtant, je ne suis pas essoufflé. Alors que si j'insuffle, par exemple, du bouche à bouche, ou par exemple, je sais pas, je joue un instrument de musique et que je suis pas formé, qu'est-ce qui se passe? Je m'essouffle très rapidement. Pourquoi? Pourtant, quand je parle, si je mets la main devant ma bouche, qu'est-ce que je sens?
De l'air.
De l'air. Donc, ça veut dire que j'expire de l'air. Donc, si j'expire de l'air, quelle est la différence? La différence est très simple. C'est que quand je parle, J'expire peut-être de l'air, mais cet air ne vient pas de ma profondeur.
Je fais beaucoup plus d'efforts.
Cet air vient d'ici. Donc il n'est pas expiré profondément. Alors que lorsque j'insuffle, l'air provient de la partie la plus profonde. Donc de la même façon, lorsque Dieu parle de toutes les autres créatures, quel terme il emploie? Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas insufflé. Ça veut dire que l'énergie divine que Dieu influe aux autres créatures est limitée. C'est comme la parole, c'est limité. Alors que pour nous, lorsque Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayi par be'apav nishmatraim. Il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, lui, s'est investi à 100%. Maintenant, j'accélère parce que je vais arriver surtout à la suite. Là, je suis au milieu de la page 212 et là, on va s'arrêter dans les mots. Au milieu de la page 212. 212, M. Benina. C'est bon, vous savez? Ok.
Merci.
C'est ça ce qui est écrit. Que Vezeu Shenemar en bas, qui chelek Hashem Amo, car c'est une part de l'Éternel, son peuple, Yaakov revel nachalato. Voilà. Aujourd'hui, l'image qui va nous accompagner pour la suite du cours, c'est la corde.
Là.
La corde.
La corde.
Alors, il y a des gens quand ils entendent parler de la corde, il y a des idées pas bien qui leur viennent à l'esprit, d'accord. Mais nous, en vérité, on va voir que la corde, c'est le plus beau symbole qu'on a dans le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque dans la paracha Ha'azinu, l'avant-dernière paracha, Moshe Rabbeinu veut définir la relation que nous avons avec Dieu. Il dit, car, qui chélek Hashem Amo, le peuple de Dieu est une part de Dieu, est une parcelle de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes une parcelle de Dieu. Et il continue, Yaakov révèle Nachalato et la corde de son héritage. La corde de son héritage. Même en français, ça se dit pas. En hébreu non plus, ça se dit pas. La corde de son héritage. Prends, nous compare à une corde. Que tu me dises que je suis une partie de Dieu, je suis touché. Oh, c'est beau. Mais tu me dis de comparer une corde. Qu'est-ce que ta corde?
Est-ce que ça voulait dire qu'on est tous attachés les uns?
Alors regardez. Très intéressant. Il dit Kempirou, ça veut dire Kemo Revel, comme une corde. Alderich Machal. Prenons l'exemple d'une corde. D'accord? Shirocho Echad Kachon le Mala Vekatseu le Mata. Prenons l'exemple d'une corde dont l'extrémité supérieure est attachée en haut et l'extrémité inférieure est en bas. Maintenant, cette corde peut être très très longue. Imaginez une corde, pour vous donner un exemple, imaginez une corde qui irait jusqu'à la Lune. Techniquement, c'est impossible, parce que si tu vas jusqu'à la Lune, elle se décompose. C'est pas possible. Mais imaginez dans l'idée. Imaginez maintenant qu'il y a quelqu'un qui est dans la Lune, et que là-bas, il y a une corde. Et que cette corde, combien il y a de kilomètres de la Terre à la Lune?
380.
Hein? Combien?
380.
Quelque chose comme 400 000 kilomètres? Bon. Hein? Environ. Yves va nous trouver tout de suite. Yves, c'est notre encyclopédie. L'encyclopédie.
L'encyclopédie, c'est Google.
De la Terre à la Lune.
Dis Siri.
380 000 kilomètres.
La distance entre la Terre et la Lune.
380 500.
Ah. Bon. Donc imaginez, quelle est la vitesse de la lumière?
300 000 kilomètres.
À la seconde.
À la seconde, évidemment. Donc imaginons qu'il y a une corde. Une corde. Une personne qui est sur la Lune, il a une corde, et moi je suis ici. Si je bouge la corde ici, est-ce que la corde en haut, elle bouge aussi? Théoriquement, oui. Maintenant, il y a tellement de paramètres, parce que la Terre, elle, tout bouge, tout tourne.
Non, mais même pas. Elle est tellement truc.
Très bien.
Normalement, elle bouge.
Mais concrètement, deux secondes, vous avez raison.
Mathématiquement, théoriquement.
Vous avez raison. Mathématiquement, théoriquement.
Il n'y a pas de raison.
Mais concrètement, on est connecté. Ça veut dire que tu es connecté. Même si tu dis, mais je le sens pas, c'est imperceptible, parce que c'est tellement loin, je le sens pas. Je veux bien. Mais tu es connecté. Vous savez, aujourd'hui, quand tu appelles, par exemple, quelqu'un aux États-Unis, en général, les appels, ils passent aujourd'hui par les satellites. Mais avant, ils passaient par des tuyaux.
Par la fibre
qui passait par la mer. Il y a encore des canaux qui passent par la mer, mais de moins en moins. Donc, ça veut dire que quand moi, j'appelle quelqu'un au téléphone, en tout cas, à l'époque, je prenais le téléphone, je composais le numéro, j'appelais quelqu'un aux États-Unis, et bien, quelque part, je suis connecté physiquement à cette personne. Parce que mon téléphone va passer physiquement par un fil, qui va passer sous l'océan. Alors, c'est vrai qu'il y a des connexions, mais ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a une connexion physique qui va être entre moi et la personne qui est au bout du fil de l'autre côté aux États-Unis. C'est comme ça, et c'est pour ça que ça coûtait très très cher, d'ailleurs. On est d'accord? Entre eux? Il y a bien une relation de deux fils. On est d'accord?
Ou alors par les ondes.
Non, les ondes, c'était avant on ne connaissait pas. Avant, on connaissait les fils. Et vous savez qu'il y avait des tunnels entiers sous l'Atlantique. Des câbles énormes, des tunnels de câbles. Énormes. Qui passent. Donc ça veut dire qu'il existe toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, je me connecte par ça. Donc maintenant tu veux dire oui, mais c'est imperceptible.
Ah oui, c'est ça la corde.
Ben oui, tu veux dire, mais moi c'est imperceptible. Moi quand je prends le téléphone, surtout à l'époque, j'appelle aux États-Unis, je touche pas un Américain. Tu dis peut-être que toi tu le sens pas, mais dans les faits, tu es connecté avec un Américain. C'est pour ça que d'ailleurs le terme qui est employé dans la téléphonie, c'est connecté. C'est un terme qui a été gardé même dans l'informatique. Dans l'informatique, on dit vous êtes connecté. On dit aussi vous êtes branché. Branché. Intéressant. Branché, connecté.
Au moment où on connecte, il y avait une connexion.
Bien sûr. Parce que c'est exactement d'où ça vient, parce qu'à l'époque, normalement, il y avait la centrale. Qu'est-ce que faisait l'opératrice? Elle connectait, déconnectait, c'était son travail. Donc ça veut dire que, c'est physiquement, c'était physique. Mets-toi dans la tête d'une personne qui était là, et voilà, il y a 30 ans, et que le coup de fil passait par l'opératrice qui connectait littéralement. Tu lui dis, tu sais, on vient de te connecter par un fil à New York. Il dit, écoute, moi je sais pas, moi devant moi j'ai un combiné, c'est tout. Je suis chez moi à la maison et c'est tout, ça s'arrête là. Oui, mais tu comprends, ce fil, il s'est connecté. Donc tu as celui qui croit rien, qui dit, moi je crois qu'en ce que je vois, j'ai appelé un numéro de téléphone et j'ai payé la conversation transatlantique. Vous vous rappelez à l'époque, tu appelais à Lyon, c'était facturé. Tu appelais même d'un quartier à l'autre de Paris, tu appelais dans l'Essonne, tu facturais, tout était facturé.
Le 22 hier.
Hein?
Ça avait fait
tout,
la
bien
fortune.
Sûr. Alors on a rajouté le 4. Après, on a rajouté le 0-1.
Ouais.
Le 0. Hein? Bon, il y en a peut-être qui connaissent encore avant. Encore à l'époque, il y avait 6 chiffres. On a rajouté 1, on a rajouté 1.
Avant, c'était d'abord les lettres et des chiffres. Daguerre, 23-42.
Au début, oui, c'est
vrai. Daguerre?
Dans les années 60, c'était comme ça. Il y avait les lettres et les chiffres. On retenait un numéro de téléphone comme ça. Il y avait 3 lettres.
Comment les lettres?
Bobzaris.
Daguerre, parce que.
351. B.O.T. Balzac, B.A.L.
Balzac, 0001. Jean Mineur, félicité.
C'est nostalgique, c'est ça, hein. Bon, alors revenons à notre sujet. Donc, tu vas dire maintenant à une personne qui fait une conversation transatlantique. Tu lui dis, tu sais, tu t'es connecté avec quelqu'un de l'autre côté. Mais j'ai pas vu. C'est imperceptible. Mathématiquement, c'est imperceptible. Je dis, mais c'est pas parce que mathématiquement, c'est imperceptible que ça s'est pas passé. Ça vient de se passer. De la même façon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il compare notre relation avec une corde? Pour te dire la chose suivante. Pour te dire, de la même façon que la corde, tant qu'elle n'est pas coupée, elle n'est pas coupée, et tu es connecté. Et même si tu ne le sens pas, tu es connecté quand même. De la même façon, quand tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui se passe. Vous savez, nous, on croit aujourd'hui qu'avec l'informatique, les choses sont plus simples. Mais en vérité, les choses sont beaucoup plus complexes. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des relais. Je connais un petit peu l'informatique. Par exemple, aujourd'hui, imaginez que vous allez aller sur un site google.com. Là, il y a un problème. C'est que le serveur de Google, il se trouve où? En Californie. Il se trouve en Californie. Et moi, maintenant, quand je clique sur un bouton, je tape google.com, ma requête doit arriver maintenant, à la seconde, on parle de millisecondes, elle doit arriver en Californie. Comment elle fait? Ben évidemment. Quand tu tapes google.com, non. Ça arrive où? La requête, une requête.
Et après, il te renvoie le lien.
Évidemment. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que non seulement d'abord tu te connectes à un serveur, tu ne connais pas directement un serveur. On ne connecte jamais directement un serveur. En fait, tu passes par un relais. En fait, plus tu as un serveur de qualité et moins tu as besoin de relais. Par exemple, Google, en général, tu as 2 relais pour arriver à lui. Mais quand tu as un serveur qui est moins connu, tu dois passer par 10 relais pour arriver. Mais toi, tu ne le sens pas. Toi, quand tu as cliqué sur ton site, tu as cliqué chabad.org, d'accord? Il est passé par 7 relais, mais toi, tu n'as rien vu. Toi, t'as vu que du feu, c'est venu tout de suite. Mais il y a eu une connexion qui s'est passée. Il y a eu le monde qui a tremblé pour toi. C'est-à-dire que si, par exemple, maintenant, avec mon téléphone, je vous envoie un WhatsApp, bien sûr, je t'envoie un WhatsApp, tu es en face de moi, je t'envoie un WhatsApp. Le WhatsApp, il est où le serveur de WhatsApp? Il est en Californie.
Il y a un seul serveur.
Mais bien sûr, il est où? Tout le serveur de WhatsApp, il est en Californie. Donc ça veut dire que quand moi je t'ai envoyé un WhatsApp, avant que mon message il arrive de mon téléphone à ton téléphone qui sont juste à côté, il a fait le tour du monde 3 fois ton truc avant d'arriver ici. Et toi, tu dis, mais il n'y a rien, il y a un téléphone, j'ai reçu un message.
On compte la vitesse. Hein,
vous imaginez ce que ça veut dire? Et donc, ça, c'est intéressant parce que la technologie nous permet de comprendre comment, en vérité, d'un côté, tu ne sens pas, la connexion physique, mais d'un autre côté, il y a une connexion. Il y a une connexion, c'est ce qui se passe. Même lorsque, par exemple, tu appelles quelqu'un au téléphone, qu'est-ce qui se passe quand tu appelles quelqu'un au téléphone? T'as une antenne relais qui est là, qui est quelque part ici, là, sur un immeuble, qui est là. Et toi, quand tu passes un coup de fil, ce que tu sais pas, c'est que ton téléphone se connecte à cette antenne, qui se connecte à une autre, il y a des réseaux d'antennes comme ça. Ça veut dire que ton coup de fil, il a fait le tour de la planète. Hein? Quoi? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire.
Sans compter qu'il a transformé ta voix en...
Oui, bien sûr, évidemment. C'est énorme. Maintenant, encore une fois, l'incroyant, qu'est-ce qu'il dira? L'incroyant, il dira, non, halte au complot. J'ai envoyé un WhatsApp, c'est tout. On dit, mais pas du tout. Le WhatsApp que tu as fait, il a fait le tour du monde. Littéralement, il a fait le tour du monde. D'accord? Eh oui. Il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Mais c'est pas parce que tu n'as pas ressenti qu'il s'est pas passé. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ça par rapport à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on te dit que la relation qu'il y a entre Israël et Kadosh Baruch Hu, c'est comme une corde. Ça veut dire que nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Tu veux dire, oui, mais moi je sens pas que je suis connecté.
D'accord.
Alors, est-ce que parce que tu ne sens pas que tu es connecté, c'est-à-dire que tu n'es pas connecté? C'est la réalité. Je vais vous raconter une histoire pour lui, ça.
Sauf que là, il n'y a pas de réseau, ça passe direct, là.
Là, c'est... Oui, c'est... oui, mais des fois, le... oui, mais c'est... ça passe direct, mais des fois, je ne sens pas.
Eh oui. Quand je fais une erreur, j'ai coupé la corde.
Ah, Khazak.
Ouais, je voulais... Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'elle a su dans les idées, Khazak.
Ah, oui.
Michael pose une question. Oui. Il dit, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avéra? Je coupe la corde.
Oui. Mm-hmm. Et si je coupe la corde, comment je peux la
remâcher? Alors, c'est très compliqué. Hein? Mais combien de cordes? J'ai combien de cordes qui me relient avec HM? Une seule? Comment ça marche? C'est compliqué.
Non, la corde, elle est faite de milliers
de fibres.
De fibres.
Ah oui, mais. Alors, moi, j'aimerais qu'on me dise concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avéra? C'est ça ce qu'on veut développer aujourd'hui.
Ben on met de la friture dans la corde, elle est toujours là. Mais
donc il y a un peu, il y a des interférences.
Il y a des interférences.
Hein, je t'entends pas, passe au tunnel.
T'entends mal. Qu'est-ce
qui
se passe?
Allô. Alors quand tu fais une mise, va après, ça met plus de temps à passer.
Vous savez que quand vous faites par exemple dans l'internet, c'est comme ça. Quand par exemple on appelle ça la perte de paquet. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous connectez, vous envoyez des paquets, on appelle ça des paquets. Des paquets, vous envoyez des paquets d'informations et vous recevez des paquets. Il y a toujours une perte de paquets. Ça veut dire comme ça, par exemple, tu envoies 1000 paquets, sur 1000 paquets, en chemin, il y en a 30 qui se perdent. Mais c'est prévu dans le système. C'est prévu qu'il y a des paquets de sauvegarde qui sont là. Ça veut dire que, donc il parle des interférences. C'est-à-dire que si le système il est bien fait, normalement, on arrive à passer outre les interférences. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Il y a toujours des pertes. Parce que ça dépend de la qualité des câbles, il y a toujours des pertes, il y en a toujours. Mais on arrive à...
Et pourtant, on reçoit l'information dans son intégralité.
Justement, parce que c'est prévu. On te l'envoie de plusieurs façons différentes pour compenser. Bon, on ne va pas faire un cours informatique aujourd'hui.
Ah oui, d'accord. Ça veut dire il y a une déviation de certains
paquets. Voilà. Qui sont récupérés. Au final, tu reçois tout. Ok. Non, pourquoi je vous parle de tout ça? Ce n'est pas pour faire un cours d'informatique. Pour expliquer que des fois, il peut y avoir des phénomènes qui se passent devant toi. Et qui se passe concrètement, que tu bénéficies. Mais comme tu n'es pas connaisseur, comme tu connais pas, donc tu dis, il n'y a rien. Dis, moi, j'ai un téléphone, j'ai envoyé un WhatsApp, qu'est-ce qui me prend la tête? Non. J'ai envoyé un mail. Le mail que t'as envoyé, il est parti où? Il est, t'as envoyé un mail Gmail. Pareil, il est parti en Californie. Ton mail est parti en Californie. Non, pas arrivé en Californie, ton mail. D'abord, ton mail est parti, tu as envoyé, t'es chez Orange. Il est parti d'abord au relais qui est ici. Qui est ici, qui est sur le toit d'un immeuble, quoi, juste derrière, d'accord? Et de là-bas, il est parti au quartier général d'Orange. Et du quartier général d'Orange, il est parti au bord de l'Atlantique. Et du bord de l'Atlantique, il est parti, il a fait le tour. Il est parti là-bas. Il est revenu pour te dire, on l'a bien reçu. Tout ça se passe en millisecondes. Mais ça se passe. Parce que sinon, ça n'aura pas marché.
Ça peut passer avec une telle vitesse que par les ondes.
Non, pas du tout. C'est pas la question. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est que c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Je vais illustrer ça par une histoire. Une fois, il y a même deux histoires. Une fois, il y a c'était dans une école en Russie, et il y avait un enfant juif qui disait croyant en Dieu. Et le professeur, il voulait à chaque fois le contrer pour expliquer que on n'a pas de, on ne croit pas en Dieu, Ras Shalom, et que notre mère c'est la Russie, et que, etc. Et notre père c'est Staline, enfin je sais pas quoi, etc. Voilà. Ouais. Bon, mais quittons. Et le petit juif, il était là toujours à se moquer du professeur, il dit ouais, notre mère Staline, etc. Bon voilà, il se moquait. Alors une fois le professeur, il a décidé de régler le compte de cet enfant. Alors il a posé la question devant tout le monde, il a apostrophé l'enfant devant tout le monde, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Alors l'enfant dit, non, j'ai jamais vu Dieu. Alors il dit, bah, est-ce que la table tu la vois? Oui. La chaise tu la vois? Oui. Le tableau tu le vois? Oui. Donc ça existe. Dieu tu l'as déjà vu? Non, alors il n'existe pas. Ah, tout le monde applaudit dans la classe, l'argument est bon. Le juif il se lève, il dit, si ça vous dérange pas, j'aurais une question à vous poser. Il s'adresse à toute la classe, il dit, est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Tout le monde répond, non, bah, il n'en a pas. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Il est là. L'autre sera rencontré après. Hein? Eh oui. Donc, ça, c'est la même façon. Nous sommes connectés avec Akadosh Baruch Hu. Nous sommes... Hein?
Hein? Non,
bon, alors on continue. Qui n'est pshat akatou. Je passe à la page suivante. Maintenant, on va développer l'idée de la corde. On va rentrer dans les détails. Qui n'est pshat akatou machinema vaipar. Ou le orot anou. Moi, Chaldeh, machin, que je viens de faire les émacom. Maintenant, on va continuer dans l'idée de la corde. Reprenons l'idée d'insuffler. Imaginez que je veux insuffler mon souffle sur cette assiette. Et quelqu'un, il vient, il met un voile devant ma bouche. Et que moi, je souffle, mais il y a un voile. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Ça veut dire que pour que ça marche, il faut qu'il n'y ait pas d'interférence. Dès que tu mets une interférence, ça passe plus. Ouais. Eh oui. Et miège d'avoir roset ou mafzig ben taïm. S'il y a quelque chose qui fait séparation et obstruction entre les deux, eh ben, le souffle que tu souffles, il se perd. Il n'arrive pas à destination. On est d'accord? Kacha mamash. Il en est de même. Et miège d'avoir roset ou mafzig magoufan el renate valé à Lyon. S'il y a quelque chose qui fait séparation et obstruction entre le corps de l'homme et le souffle d'en haut, le souffle d'Hachem, eh bien, malheureusement, on obstrue. Ar, cependant, BMET, en vérité, en shum davar gashmi veruchani chotzes lefanav yitbarer. Maintenant, la question est la suivante. C'est une question intéressante qu'il pose. Là, on rentre un peu dans la philo. Tout à l'heure, elle a dit la philo. Une question intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut obstruer Dieu?
Non.
Donc, finalement, il n'y a rien qui peut obstruer Dieu. Donc, Dieu communique avec moi. On a dit qu'il y a Dieu, il envoie son souffle. Il envoie son souffle, son énergie, pour me vivifier ma neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avéra? Tu me dis, oh, t'as obstrué. Mais non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut obstruer Dieu? Non, donc ça changerait finalement.
Mais ça obstrue,
pourquoi on peut obstruer? Pourquoi, dans l'exemple du verre, je pouvais obstruer? Pourquoi? Parce que mon souffle est quasi physique. L'assiette est physique. Donc si je mets devant une feuille qui est physique, le physique bloque le physique. On est d'accord? Bonsoir. Mais quand tu parles, Razak. Mais quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, merci. Quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, ça marche pas comme ça. Il y a rien qui peut obstruer. Seulement, alors on continue. Il dit, Kialo, Atashamayim tourne la page 214. Kialo, Atashamayim etas animale. En vérité, la terre est emplie de Dieu. Umlokolarez vodo. Toute la terre est emplie de la gloire d'Hachem. Velet et terre panouminée. Il n'y a aucun endroit qui est vide de lui d'Akadosh Baruch Hu. Bashamayim imal. D'accord? Bashamay mimal ve'alaharet mitachat en od ve'yu mimale kol almin et Akadosh Baruch Hu emplit tous les mondes. Et là, comment? Alors justement, écoutez ce qu'il va dire ici. Donc, c'est-à-dire en vérité, il n'y a rien qui peut me séparer d'Akadosh Baruch Hu. Alors, où est le problème de la vera? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Finalement, où est le problème? Je suis tout le temps connecté. Tu es en train de m'expliquer qu'il n'y a rien qui peut nous déconnecter. Même si je fais une faute, il n'y a rien qui peut me déconnecter. Non. En vérité, voilà ce qui déconnecte. Et là, comme Moïse a écrit dans Yeshayahu, qui im avonotechem ayum avdili menechem elvon elokechem. La seule chose qui peut me séparer d'Hachem, c'est quoi? C'est la vérité. Ça veut dire que la distance ne me sépare pas d'Hachem. Le fait que lui, il est spirituel, moi je suis matériel, ça ne me sépare pas d'Hachem. Parce qu'il n'y a rien qui sépare d'Hachem. La seule chose qu'Hachem a créée dans le système qui le sépare, c'est les fautes. On va expliquer pourquoi.
Que moi, tout à l'heure, on a dit rien ne nous sépare de,
ah, justement,
de Hachem, et là on me dit c'est la faute qui me sépare.
C'est ce que j'explique. Il n'y a rien de physique ou de métaphysique qui puisse me séparer d'Hachem. Mais
la faute, c'est physique.
Justement, la seule chose dans le système qui nous sépare, c'est la faute. Pourquoi ? Parce que Dieu a décidé comme ça. Dieu a décidé que la faute crée des interférences. Quoi comme interférence ? On va expliquer tout de suite. Donc, comment je katuv qui ima venotechem ayuma vdilim lechem venotechem ve'ata'am lefishem neged ratzon baruchom mechayat hakol. En fait, c'est très simple. Pour faire une interférence, pour obstruer, il faut qu'il y ait une contre-force. Je donne un exemple. Imaginez par exemple que je suis en train de souffler sur cette assiette et quelqu'un il vient, il me met devant un obstacle, une feuille. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a une obstruction, ça bloque. On va imaginer par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il envoie de l'énergie. Maintenant, Dieu, il a une volonté. C'est quoi sa volonté ? Que je fasse les mitzvot. Et que je ne fasse pas la averot. Lorsque je fais une avera, qu'est-ce que je fais ?
J'exprime ma volonté.
J'exprime ma volonté à l'encontre de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que je suis en train de dire à Hachem, toi, tu veux ça.
C'est une volonté contraire.
Moi, je veux pas. Donc, c'est une volonté contraire. Force contre force, qu'est-ce qui se passe ?
Zéro.
Il s'annule.
Il s'annule.
Force s'annule.
Razak. Force en physique. Force contre force s'annule. Ben, c'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Tu mets un mur. Tu mets un bâtiment, tu mets la planète, tu mets 500 000 kilomètres. C'est rien, ça lui fait pas peur, ça, Hachem. Y a pas de problème. On est toujours connecté. Tu le sens pas, mais on est connecté. Mais tu viens. Tu vas à contre-courant. C'est-à-dire qu'Hachem, il envoie un courant. Il dit, moi, je veux ça. Et toi, tu viens, tu dis, ben, moi, je veux pas. Et je ne ferai pas ce que tu veux, je ferai ce que je veux. Tu vas à contre-courant. Tu coupes les ponts avec Hachem. C'est ça, la gravité de l'Avera. Quand je fais une Avera, la gravité de l'Avera, c'est pas seulement que je n'ai pas fait la volonté d'Hachem. C'est pas seulement qu'il y a un grand roi qui va demander quelque chose et je ne l'ai pas écouté, donc je vais me prendre une tréra. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'en faisant le contraire de la volonté de Hachem, je coupe les ponts avec lui. C'est moi qui perds, c'est pas lui qui perd. Lui, il perd rien. C'est moi qui perds. Dans l'histoire, le plus grand perdant, c'est pas lui. C'est pas lui que j'ai pas fait ce qu'il a demandé, que je lui ai manqué de respect. J'ai osé lui manquer de respect. Le plus grand perdant dans l'histoire, c'est moi. J'ai coupé les ponts. Et là, on va comprendre maintenant le sens de karet. On dit que dans les fautes les plus graves, qu'est-ce qui se passe ? On carette. Carette, littéralement, ça veut dire quoi ?
Retranchement.
Retranchement, Razak. Si vous prenez la traduction littérale de carette, c'est quoi ? Couper. Couper. Pourquoi on utilise ce terme ? Parce que lorsqu'un juif fait une avéra grave, il coupe la corde.
On ne met pas brite.
Hein ?
Quoi ? On dit pas à couper, on ne dit pas brite.
Non, brite, c'est une alliance.
Une alliance.
D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait comme bracha à la Brit Mila ? Koret haberit. Koret haberit. Le moel, c'est le moel qui est la bracha. Koret haberit. Celui qui coupe la berit. Koret, couper. Koret. Donc celui qui fait une avéra, ça dépend de la verotte. Pour une avéra très grave, comme par exemple manger du chametz à Pessah, ou manger à Kippour, ou avoir des relations avec sa femme qui est Nida, etc. Pour des fautes comme ça. Ça veut dire quoi, chayav karet ? Alors toi, tu penses chayav karet, ça veut dire il va mourir. Mais c'est plus grave que ça. Ça, c'est un détail. C'est rien, ça, mourir. C'est pas un problème, mourir. Quand une personne meurt, Dieu préserve, mais quand une personne meurt, eh ben, il déménage. Avant, il était là, il est passé en haut, c'est tout. Ça arrête là. Mais karet, c'est très grave. Quand une personne est karet, c'est-à-dire qu'on coupe. Il coupe la relation qu'il a avec Hachem. Et ça s'arrange pas en haut, c'est très compliqué. Comment tu règles le problème? T'as coupé le cordon. Il y a plus d'attachement. Alors, vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, quelle est la différence entre une mitzvah, une avéra, comme manger du chametz à Pessah, et une avéra comme le lashon hara. Pourquoi le lashon hara, ça coupe pas tout? Comment ça se fait? Pourquoi une, et en d'autres termes, qu'est-ce que ça coupe? Est-ce que ça coupe ou ça coupe pas? Est-ce que c'est qui tout double? Est-ce que c'est binaire? Soit tu coupes tout, soit tu coupes rien. Alors il va expliquer l'idée suivante que David a dit tout à l'heure. En vérité, dans la relation que nous avons avec Kadosh Baruch Hu, il y a une corde. Mais dans cette corde, il y a des avéras qui sont tellement graves qu'ils font tout sauter. Si tu veux, quand tu touches à une fibre explosive, tu touches à une avéra explosive, elle fait tout sauter à la corde. Bah, tout saute. Maintenant, quand c'est pas une avéra qui est explosive, quand c'est une avéra classique, on va dire, il n'y a pas d'avéra classique, mais quand c'est une avéra qui est, on va dire, entre guillemets, moins grave, tu coupes un fil. Maintenant, la corde est composée de combien? De 613 fils. Donc, lorsqu'une personne, par exemple, n'a pas mis les tefilines, ce matin, il n'a pas mis les tefilines. Il a coupé une corde, la corde était finie. Il reste 612. Maintenant, c'est peut-être pas la seule faute qu'il a fait.
Et à chaque jour, ça se régénère ou bien?
Ah, justement.
Alors, quand tu fais, qu'est-ce que je reconstitue?
Ah, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait teshuvah? C'est quoi la teshuvah? Quand tu fais teshuvah, tu fais un nœud.
Donc tu répares pas, alors?
Bien sûr, tu répares. Parce que quand tu fais le nœud, l'endroit le plus solide de la corde, c'est où, dorénavant? c'est l'endroit du nœud. En physique. L'endroit le plus solide de la corde, c'est le nœud. Et c'est pour ça que dans certains cas, dans les bateaux, etc., dans l'aéronautique, des fois, on coupe volontairement, on fait un nœud.
Mais ça laisse une trace.
Pourquoi? Pourquoi? Ça laisse une trace. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'endroit du nœud, c'est l'endroit le plus solide. L'endroit du nœud, c'est l'endroit le plus solide.
Une fracture de jambe, hein, quand hein?
Fracture
une jambe. Bien sûr. C'est l'endroit le plus costaud.
Bah, les sportifs, ils se cassent tous le tibia. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils savent, hein, les sportifs de très haut niveau. Ouais. Parce qu'ils savent qu'une fois que tu l'as cassé, il est solide.
Ouais, mais on dit à Kipo aussi, hein, on récupère tous les nœuds.
Hein, c'est?
À Kipo, on récupère tous les
nœuds. Ah, maintenant, attendez, on va continuer avec l'idée de la corde. Parce que cette idée est magnifique. Parce que, tu comprends que quand, si t'avais une corde qui était tissée de 613 fils et que t'as coupé 1, t'as coupé 2, t'as coupé 50, t'as coupé 100, étant donné que le reste est attaché, donc la corde, peut-être qu'elle pendouille, mais elle est toujours là. Donc on peut récupérer la situation. Par contre, si t'as tout fait sauter et que qu'après les corps circulent et partent dans son sens, va recoller les morceaux. C'est très difficile de recoller les morceaux quand c'est complètement coupé. Lorsque, par exemple, deux personnes, ils sont encore ensemble, prenons un homme et une femme, ils sont encore ensemble, il y a eu un petit problème sur ce détail, mais ils sont encore mariés. On dit bon, ils sont encore mariés, alors on va récupérer la corde, et on va les rendre encore plus fort qu'avant. On va faire un nœud, on va renouer.
Oui.
Renouer contact.
Le dialogue.
C'est ça? Renouer, ça veut dire qu'on va transformer le problème en solution. Le sujet sur lequel on était disputé va devenir le sujet qui va nous unir encore plus que le reste. C'est ça le nœud. Le nœud, l'endroit où on fait le nœud devient l'endroit le plus solide. Très bien. Mais ça, c'est facile à condition qu'on n'a pas coupé les ponts. Comme on n'a pas coupé les ponts, donc il y avait un fil qui traînait par-ci, un fil qui traînait par-là, mais dans l'ensemble, la corde était attachée. Donc on peut récupérer. Tu peux faire un nœud. Mais quand tout a déjà sauté, ah, le moteur il est lâché. Tant que le moteur il est là, t'as un piston qui est lâché par-ci, un piston qui est lâché par-là, bon, on peut encore récupérer. Mais si t'as eu, dis-nous une pièce qui a sauté, une pièce qui a tout fait sauter. Hein?
Le vibroquin,
tout. Ah, bah, le vibroquin il a lâché. Il dit papa, c'est fini. Tu dis, mais Dieu, les pistons ils sont bons. Mais quel piston? Il est mort le moteur.
Alors, à quel moment il se reconstitue? Est-ce que c'est Rosh Hashanah ou c'est Kippour?
Ah non, si c'est carré, c'est mort.
Alors, attends. Quand il y a un vrai rachat.
Oui.
Comment ça se passe? Il y a un vrai rachat, un vrai rachat, il a tout sauté.
Oui.
Il a dit.
Il est déconnecté.
D'accord, ok. On a dit à deux ou trois cours, même avant, que le jour, même une 5 secondes avant ta mort,
tu peux faire
être reconnecté. Comment on fait reconnecter? Alors qu'on a les fils de tous les côtés, à droite et à gauche et en bas et en bas.
Majax.
Ça va demander l'explication de chapitre 6. La fin chapitre 5, chapitre 6. Pour expliquer. Le pouvoir de la Teshuvah. Parce que là, pour l'instant, on comprend qu'on est bien embêté, là.
Ah oui.
Il n'y a pas de solution.
Ah là, on est bien embêté, là. Hein. On a compris. Quand c'est coupé, c'est exactement. Quand c'est coupé, c'est coupé. C'est mort.
Alors, quand c'est complètement coupé, c'est mort.
Oui, mais la Teshuvah, tu.
Oui, mais il a raison. Mais quand c'est complètement coupé, c'est fini. Il est mort. Le moteur, il est mort.
À droite et à gauche.
Tu vas récupérer. Alors comment que... Donc là, en vérité, si vous voyez, l'Admor HaZaken, il nous prépare. Il nous prépare pour nous expliquer à quel point j'avais une force extraordinaire en moi, que j'ai tout gâché avec ma faute, et il veut nous permettre d'arriver à une conclusion qu'en vérité, logiquement, il n'y a aucune raison que la Teshuvah marche. La Teshuvah ne doit pas marcher, c'est pas possible. T'as tout cassé, comment tu veux réparer? Il a tout cassé, il dit, ah ben je regrette. Il a cassé le vilebrequin, il a pris une masse, il a tapé sur le vilebrequin. Il a cassé son moteur. Après, il dit, ah ben, je regrette. Qu'est-ce que tu regrettes? C'est mort. Donc là, c'est là que progressivement, le Morazaka va nous expliquer qu'avec tout ça, et pourtant, grandir la force de la Teshuvah. Mais il faudra expliquer pourquoi. Parce que si on prend l'image de la corde, il faut que tu m'expliques comment ça marche. Parce que l'image de la corde est très parlante. Là, je comprends très bien l'image de la corde. J'ai coupé. Comment je récupère? Je mets de la colle. Je recolle les morceaux. C'est aimanté. Comment tu récupères? Alors, on va expliquer. Donc, dans les mots. Vezeu inyan akaret. Ce que je vais vous expliquer, on va le dire maintenant dans les mots. Page 215, deuxième paragraphe. Vezeu inyan akaret. C'est ça, le sens de Hayav karet. C'est quoi karet? Chez nichrat. Venifsak. Revel amshacha mishem avaye baruchu. La corde qui véhicule le nom d'Hachem. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là la semaine dernière, dans le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Notre corps, c'est le Hei d'en bas. Hachem, c'est le Hei d'en haut. Maintenant, quand tu coupes la corde, tu as cassé le nom d'Hachem. Tu as coupé la connexion. Tu es déconnecté. T'as un Hei d'en haut qui se balade, le Hei d'en bas, il est perdu. C'est fini. Ou comme moi, chez Katouf, Parashat Emor, comme il est écrit dans la Parashat Emor, à propos justement d'une avéra sur laquelle on est chayav karet, à propos d'une avéra sur laquelle on est chayav de retranchement du peuple juif, qu'est-ce qu'il est écrit? Le pasuk est explicite. Venichreta hanefesh haim ilefanai. Et cette âme sera retranchée de devant moi. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Milefanai daika. Dieu dit clairement, de devant moi. C'est-à-dire, toi, tu crois que tu restes en vie. Mais en vérité, t'es coupé. C'est coupé, coupé, coupé. Non, Bichar, Averot, Shehen, Bem, Karet. Quant aux autres fautes qui n'impliquent pas le retranchement, comme par exemple, on a dit, les fautes, par exemple, qu'une personne qui a, par exemple, il a fait le Shonara, ou le Bem était fini ce matin, ou il a pas fait Shema ce matin. C'est des fautes qui sont, entre guillemets, moins graves. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit, alcool, panim, même pas gumet, un nefesh. Même si c'est une faute qui n'est pas chayav karet, en bas de la page 115, ne crois pas que ton âme reste intacte. Il est évident qu'une faute, aussi petite soit-elle, forcément, elle est brèche, l'âme. Pourquoi? Parce que comment on dit en hébreu un défaut? Un défaut, pgam. Pgam. C'est quoi pgam? Pgam, c'est un défaut. Alors, c'est intéressant. Parce qu'en vérité, pgam, ça veut pas dire un défaut. Ça veut dire une ébréchure. C'est comme un couteau. Le couteau, tu le prends, il est lisse. Maintenant, le couteau, des fois, il s'abîme un petit peu. Et là, il est ébréché un petit peu. Est-ce que le couteau, il coupe toujours?
Bien sûr.
Oui, il coupe toujours. Mais, il est un peu ébréché. Alors, une ébréchure, c'est pas la fin du monde. Pour la shrita, c'est problématique. Mais une ébréchure, c'est pas la fin du monde. Mais quand le couteau, il est ébréché, 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 à la fin, tu veux couper la dabrote, ça coupe pas. C'est embêtant.
C'est exactement comme la corde.
Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, une avéra sur laquelle on est chayav karet, c'est une avéra qui coupe tout. Une avéra sur laquelle on n'est pas chayav karet, c'est quand même un bgam. C'est quoi un bgam? Ça veut dire c'est une ébréchure. On a ébréché. Ou bgam, ou milachon, gimat asakin. C'est comme un couteau ébréché. Veu al derech machal michevel av. Si on reprenait l'exemple de la corde, page 216. Veu al derech machal michevel av. Shazur mitariak ravalin dakim. Comme une corde épaisse, composée de 613 fines cordes. D'accord? Ça veut dire quoi? Alors c'est intéressant. Ça veut dire que, le rabbi nous fait remarquer sur ça, hein. C'est intéressant qu'on ait 613 cordes. Parce que, en vérité, combien de mitzvot peuvent me concerner au maximum? 207. En exil, aujourd'hui, 207.
Donc le reste, c'est le reste.
Et je vais vous dire plus que ça. Même si on avait le Beth Amikdash, il y a des mitzvot qui sont liées au Kohen.
Ah oui.
Je ne suis pas Kohen. Il y a un Kohen ici. Il y a des qui sont liées au Kohen Gadol. Il y a des mitzvot qui sont liées au roi. Il y a des mitzvot qui sont liées à un homme qui veut divorcer de sa femme. Et des mitzvot qui sont liées à un homme, Dieu préserve, qui a violé une femme. C'est des choses qui ne nous concernent pas. Ras et shalom. Et pourtant, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que dans la relation que j'ai avec Hachem, ma neshama, elle a 613 cordes. Donc c'est intéressant.
Je peux jamais te couper.
Donc exactement. Donc ça veut dire qu'en vérité, je gagne au change. Parce que étant donné que le maximum des averot que je peux toucher aujourd'hui est 207, ça veut dire que tant que je touche pas à une fibre explosive qui fait tout sauter, une faute sur laquelle Chayav Karet, j'aurai toujours deux tiers qui sont attachés.
Ouais, mais
ce qui est pas mal.
Bien sûr. En plus, c'est Averot. C'est pas qu'Averot 207.
C'est non. Total. Je dis qu'aujourd'hui, le maximum en exil, le maximum de mitzvot que tu peux faire, c'est même s'il a tout fait. Il a divorcé de sa femme, il a toutes les mitzvot possibles. Parce qu'il y a une mitzvot quand tu divorces, il faut faire comme ça, Dieu préserve. C'est celui qui a tout fait. D'accord? Maximum 207. Tu peux aller plus.
Positif
que ça.
Et négatif.
En tout. D'accord. Or, la relation, la connexion que Maneshama comporte avec Hachem a toujours 613 fils. Donc, je ne couperai jamais 613, parce que je ne peux pas les couper. J'ai pas accès à ces mitzvot.
Il y a 406 qui restent.
Donc, c'est pas mal. Mais, le problème, encore une fois, c'est que parmi les 207 que j'ai, il y en a certaines qui sont explosives. C'est-à-dire, tu touches à celui-là, tu fais tout sauter.
C'est le fusible.
Ah, c'est pas le fusible. C'est la dynamite. Celui-là, tu touches, pac!
C'est une mine.
C'est exactement, c'est une mine.
Marchons de mine.
Alors, dites-nous lesquelles, comme ça on ne les touche pas.
S'il reste de la lumière.
Voilà, j'ai donné des exemples. J'ai dit manger le chametz à Pessah, manger à Kippour, avoir des relations avec sa femme Nida, etc. Il y a beaucoup de mitzvot comme ça. C'est pas si simple ça, le krasia. Ok. Alors, maintenant.
Bien cuit,
alors c'est cru, c'est pas
okay. Veuol derech machal. OK.
Non, c'est le boudin que je veux pas.
Alors veuol derech machal.
Le blanc ou le noir.
Michevel, donc je disais, ou kshover chas vechalom la chat meina, nipsak revel adak. Et lorsqu'une personne transgresse, Dieu préserve une de ses mitzvot, la corde est coupée. Bon. Alors maintenant, il y a un problème. C'est que si la corde est coupée, normalement, la personne devrait mourir sur place.
Mais il n'y a plus de vie.
Non,
mais c'est un avant.
Il n'y a plus de vie.
Il n'y a plus de vie.
T'as coupé le courant.
Le monde sera un cimetière alors, dans ce cas-là.
Je comprends.
Donc ça veut dire qu'il y a autre chose.
Donc il y a autre chose.
Il y a autre chose.
Mais puisqu'on a.
Alors qu'est-ce qu'on dit, deux secondes? On dit que celui qui était Khayav Karet, il mourait à quel âge? Il mourait, on a dit, avant 50 ou 60 ans. D'où tu m'as sorti ces 50 ou 60 ans? Il y a deux choses l'une. Ou t'as coupé l'énergie, t'as coupé l'électricité, bah il meurt tout de suite. Ou t'as pas coupé, bah il peut y aller, hein, tant que ça tire jusqu'à 120 ans. D'où tu me l'as sorti 120 ans? 60 ans. Alors la réponse est très simple. Il dit, regardez, Argam Bechayav Karatumita, en bas de la page 216. Même chez celui qui est coupable, Dieu préserve une faute passible de retranchement ou de mort, Nish Arbo Adaina Reshim ou Minafshu Elokit. Il reste encore dans son âme une empreinte de son âme divine. C'est un peu comme le courant. Des fois, t'enlèves la prise. D'accord? T'enlèves la prise.
Il y a les condensateurs.
Ça veut dire que des fois, t'enlèves la prise. Tu charges ton portable, par exemple. D'accord? Tu charges ton portable. Faites laisser chez vous à la maison. Tu mets ton portable à charger. D'accord? Après, tu enlèves la prise de ton portable. Tu laisses brancher. Après, tu débranches. Et le câble, tu le branches dans ton portable. Et tu vas voir, pendant une seconde, ton portable va s'allumer. Il va dire en charge, après il va s'arrêter. D'où ça vient ça? Parce que dans le cordon, s'il est de bonne qualité, il a conservé l'énergie. S'il est de mauvaise qualité, il n'a rien conservé. Mais s'il est de bonne qualité, il a gardé un peu de courant. Même s'il a débranché la prise, il garde un peu de courant. Alors c'est la même chose. Lorsqu'une personne, Dieu préserve, fait une avéra sur laquelle il rêve Karet, qu'est-ce qui se passe? Même s'il a coupé les points avec HM, il reste encore de l'énergie. Avec le peu d'énergie qui reste, il peut tirer jusqu'à 50 ou 100 ans. Selon les circonstances. C'est-à-dire qu'après, il faut rouler sur un filet d'énergie, tu vois. Il roule.
Après, il y aura un groupe électrogène.
Après, c'est fini.
Ah ouais.
Mais en vérité, c'est fini depuis longtemps. C'est le chidouche. Toi, tu crois que c'est fini à 50 ou 60 ans. Vérité, c'est fini depuis le moment où il a fauté.
C'est pour ça qu'il peut être des pacemakers après.
Dieu préserve. D'accord.
Alors, ceux qui vivent jusqu'à 90 ans, et que l'on voit au Khazir le matin.
Très bonne question. Chapitre 6, juste après. On y arrive tout de suite, là. Parce que normalement, celui qui a dépassé 60 ans, c'est que, il n'est pas Khayav Karet. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Rav Yosef, le grand Yosef de la Gemara, on raconte que lorsqu'il a dépassé 60 ans, il a fait une grande fête. Les élèves ont demandé pourquoi. Il a dit parce que maintenant je sais que je suis pas concerné par Karet.
Il y a beaucoup de sadiqui, ils sont partis avant, ils sont partis jeunes.
Bon, c'est ça une autre question. Ah. Mais au moins lui, il sait que je suis pas concerné par Karet.
Voilà, je peux parler de Karet.
Donc, conclusion. Quel est le chidouche de ce chapitre? On pourrait résumer en un seul mot ce chapitre. Chapitre très court. Quel est le chidouche de ce chapitre? C'est que la relation que nous avons avec Hachem est comparée à une corde. Dans cette corde des 613 fils, d'accord? Si tu fais une avéra classique, tu coupes un des fils, mais la corde reste toujours là. Si tu fais une avéra très grave, tu coupes complètement le fil, mais la personne peut continuer encore à vivre avec l'empreinte qui reste d'énergie, qui reste un petit peu, qui lui permet de tirer.
La queue du lézard, elle bouge tout le temps.
Non, mais on le voit, ça.
C'est l'énergie. Hein.
Bien sûr.
On coupe la tête du pain.
On pourrait parler, je peux vous parler d'êtres humains aussi. Hein. Les êtres humains aussi, c'est bon.
C'est vrai.
Bien sûr. L'être humain aussi. Ouais. Il y a un nom pour ça d'ailleurs. L'énergie qui reste. Ouais. Vous savez, par exemple, que lorsqu'une personne qui se monte, ses ongles et ses cheveux continuent à pousser.
Non, mais c'est végétal.
D'où ça vient? Comment ça pousse? Si ça pousse, c'est qu'il y a de l'énergie.
Bah oui, c'est parce que c'est les résidus de.
Mais je comprends. Donc il y a des résidus, c'est que donc il y a de l'énergie. Si ça pousse, c'est qu'il y a de l'énergie. D'où vient cette énergie?
C'est la petite étincelle.
C'est dans le sang, il y a encore tous les autres écoulements.
Donc ce que je dis, donc il reste de l'énergie.
La petite étincelle qui reste quand on a débranché le.
C'est la même chose.
Physique, il n'y a plus d'énergie.
Oui, c'est pas une énergie qui permet de bouger, mais c'est une énergie qui existe. C'est l'énergie qui est quantifiable, elle est là. Voilà.
C'est l'énergie qui bouge après. Non, c'est comme tu fais la scrita d'une vache. Une fois que tu l'as dépecée et tout, tu regardes la peau, elle bouge.
Bien sûr. Il y a encore de l'énergie. Ok. Validez-y. Yachol.
Il a vu des roues.
Hein?
Je vais aller l'afficher.
Je l'ai refroidi, il bouge encore.
C'est ça, et après tu fais des.
Il bouge encore, t'inquiète pas.
Sur le gris,
il bouge. On n'est pas chez les Chinois, alors. chez eux. Hein.
Les Arabes, lorsqu'ils égorgeaient au Maroc les moutons et qu'ils les jetaient comme ça, la tête coupée, ils couraient. Ah oui. Même,
ouais.
Non mais même un coq.
Même un coq.
Même une poule.
Bon, allez, on va pas trop dégoûter Mickaël. Il a pas encore mangé.
Il va devenir végan.
Ça change rien, hein. Valider Zeyachol Lichyot. Pourquoi? Quand tu prends du blé, tu le tues pas le blé?
Il a une vie le blé.
Il a une vie le blé.
La carotte, elle a une vie.
Ça change. Alors, on arrête de vivre, alors.
Alors voilà.
C'est vrai con. Tu peux pas comparer un animal et un.
Mais qu'est-ce que ça change?
Mais c'est quoi la vie?
Ça change.
Bah, viens, je vais vous couper.
Non, mais qu'est-ce que ça change?
Mais attends, parce que l'animal, tu le vois bouger, mais la carotte, tu la vois pas bouger, c'est tout. C'est ça qui te
choque. Arrête de me la faire de Francisco là.
C'est la vérité.
C'est la vérité.
En coupant carotte, une carotte, par contre, si demain je devais tuer mon poulet, mon agneau.
Donc c'est psychologique, c'est pas moral.
Ah non, c'est physique.
Donc c'est psychologique. Comment? Parce que moralement, il n'y a pas de différence entre couper la vie à un animal et couper la vie à une carotte. Elle était tranquille en train de pousser, tu la prends, tu la coupes. Elle est tranquille.
Il n'y a pas de différence pour vous.
C'est la même chose. Bien sûr que l'animal, est, on va dire, a une vie
il
qui est plus.
Il est vivant quand même, il est vivant.
Ah, et la carotte, elle ne vit pas?
Oui, mais bon.
Vous la coupez, elle pourrit.
Végétal.
Qu'est-ce que ça change?
Un lapin, tu vois ce qu'il va te dire, s'il prend sa carotte.
Arrêtez.
Mais pourquoi elle est philosophe, la vache, ou quoi?
Comment?
Elle est capable de te faire un discours des
gars. La vache?
Ouais.
Bah, je sais pas, moi. Prends une vache, enlève son veau, tu vas voir. Touche à son veau, tu vas voir. Par contre, touche à une carotte qui est à côté, plante une carotte, il va rien se passer.
Mâche et Katou, Béchem Arizel. Bon, ça, la parenthèse, on va sauter. Dans la parenthèse, Rabotai, l'Admour Hazaken. Bon, on va continuer. Dans la parenthèse, l'Admour Hazaken. Il développe qu'il amène du Arizal, que l'Arizal y dit, que le reste des années jusqu'à 60 ans, d'une personne qui rêve, qui arrête. Alors il y a une énergie de maquis qui s'introduit en lui, etc. Mais ça, c'est une parenthèse, on ne va pas rentrer dedans. Maintenant, on va passer au chapitre 6. Et là, le chapitre 6 va toucher à une question existentielle. Une question que Serge m'a posée des dizaines de fois. D'accord ? D'accord ? Non. Une question très simple. La question très simple. Tout ça, c'est bien beau. Tu m'as dit la corde, coupée, pas coupée. Mickaël, tu viens de la poser. Tu m'as dit coupée, pas coupée. C'est bien beau, je comprends. Dans les faits, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Dans la réalité, c'est la question qu'il va poser. Dans la réalité, il y a des gens qui fautent. Après, on n'est pas les comptables de Dieu. Mais il y a des gens qui fautent indéniablement, qui te mangent du hametz devant toi à Pessah et qui vivent jusqu'à 120 ans. Comment ils vivent? Comment c'est possible?
Ouais.
Si tu me dis qu'une personne qui rêve carrette, il a coupé le cordon, et que bon, il tient juste avec un filet, avec ce qui reste, alors comment il y a des gens qui ont dépassé ça? Ils sont pas juifs? Bien sûr qu'ils sont juifs. Donc il y a un problème dans le système. Comment ça marche? Chapitre 6, un chapitre fondamental dans la vie.
C'est pas maintenant, c'est la vie, c'est le Gan Eden.
Oui, mais ça marche pas, ça. Oui, parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné des règles. Donc les règles, où elles marchent, où elles marchent pas. Parce que si elle marche pas pour l'un, elle marche pas pour l'autre non plus. C'est pas deux poids, deux mesures. Ça marche pas comme ça. Si tu m'as donné une règle, tu m'as dit celui qui mange du ramat sa pessar, son cordon est coupé, il peut pas dépasser 50 ou maximum 60 ans, ça veut dire qu'il peut pas le dépasser.
Il y a des tonnes de combinaisons dans tes règles.
Quoi?
Il y a des tonnes de combinaisons.
Combinaisons dans quoi?
Dans chaque règle, il y a des tonnes de combinaisons.
Justement. Non, mais là, une règle, c'est une règle. Hachem, il a dit, ce qu'on a expliqué, Hachem, il a dit, une personne qui fait une talavera, son cordon est coupé. Donc si le cordon est coupé, il est coupé.
C'est le principe pour être contre Hachem, parce qu'on dit, il y a Azvekat et Azveni.
Je comprends, hein. J'ai pas de problème avec ça.
Oui.
Je ne veux pas que cette personne meure, qu'il reste en vie, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'il meure, je veux juste comprendre comment ça marche. Dans ce cas-là, Dieu n'aurait dû rien dire. Il aurait dû dire, écoutez, je règle les comptes quand je veux, où je veux. C'est plus simple.
Ouais.
Ne me dis pas des phrases comme ça qui me dérangent, des phrases qui m'embêtent. C'est mieux, tu dis, écoute, je règle les comptes quand je veux. Pourquoi Dieu, il s'embête à dire ça? Il dit, tu sais, celui qui fait ça, il dépassera pas 50 ou 60 ans. Pourquoi tu dis ça? Alors que c'est faux sur le terrain, on voit. Hein? C'est pas le cas.
Oui, mais ça, c'est à l'époque du
temps. Ce qu'on va voir, Razak. Qu'est-ce qui a changé? C'est Razak, on va voir. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le judaïsme n'existe plus aujourd'hui?
Ah oui, toujours. Oui.
En fait, il faut définir, c'est une bonne réponse que tu dis. Mais il faut expliquer en quoi le fait qu'il n'y a pas le temple, ça change tout. Parce que, on continue à mettre les tefillines tous les jours, on continue à faire Shabbat, donc c'est-à-dire que la Torah n'a pas changé. Donc si la Torah n'a pas changé, pourquoi le système de la Torah aurait-il changé?
C'est genre une excuse.
Non, c'est pas une excuse. Je veux comprendre comment ça marche.
On sent pas la présence d'Akadosh Baruch Hu.
Alors regardez. C'est ce qu'il va expliquer. En fait, la clé de la réponse, c'est que, la clé de la réponse que vous nous expliquez à la Morazaka dans le chapitre 6, on va passer au chapitre 6, page 220. c'est que l'enjeu majeur de l'exil, c'est pas seulement le fait qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Ça, c'est un détail, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. L'enjeu majeur de l'exil, c'est que justement, Dieu nous brouille les pistes au point qu'on n'arrive pas à voir de nos yeux la conséquence directe, la corrélation directe entre nos mitzvot et nos récompenses, nos averot et les punitions. Ça, c'est la partie la plus dure de l'exil. On va expliquer pourquoi. Et on va expliquer aussi comment ils tiennent, parce qu'il faut expliquer comment ils tiennent, si on coupe le cordon, comment ils tiennent. On va expliquer ça aussi.
Ça veut dire à l'époque du temple, les gens voyaient.
Eh ben oui. À l'époque du temple, les choses s'accomplissaient telles qu'elles sont écrites dans le schéma. Celui qui se comportait comme il faut, la pluie tombait dans son champ. Celui qui faisait une avéra, la pluie ne tombait pas dans son champ. Les gens le voyaient de leurs yeux. Et avec ça, il fautait, parce que c'est comme ça, le tsara, il est très fort. De nos jours, on ne voit pas. De nos jours, tu as la pluie qui arrive, alors elle arrose tout le monde. Pourquoi? Pourquoi ça a changé? Et bien, c'est ça, justement, la partie principale de l'exil. À l'époque du Beth Amikdash, ce n'était pas comme ça. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui fautait, il se prenait sur la tête. Il savait que ça va me coûter cher. C'est pas grave. Il dit, bon, j'ai envie de kiffer, laissez-moi tranquille maintenant. Je vais payer, je vais payer. À l'époque, c'était comme ça. De nos jours, c'est plus comme ça. De nos jours, tu as des gens qui vont jamais payer. Pourquoi? Chapitre fondamental. Omnam, cependant. Zehu, Bisman, Chayou, Israël, le Madrigal, Yuna. Tout ce qu'on a expliqué avec la corde. La corde, qui est la relation entre nous et Hachem, et que les petites avérotes coupent un petit cordon, un petit fil, et que la avérote et le ravkaret font tout sauter, et qu'on peut tenir avec ça que jusqu'à 50 ou 60 ans. Ok. Ça, ce n'était, ça concernait seulement l'époque où les juifs étaient à un degré élevé. Shaita Shrina Shorab Israël, lorsque la Shrina résidait dans le peuple juif, et Beit Amikdash dans le Beit Amikdash. Au Beit Amikdash, c'est un endroit dans lequel on voyait Dieu clairement. Lorsqu'on vous dit par exemple que au Beit Amikdash, tout le monde pouvait voir la divinité, on voyait les miracles de nos yeux. Il ne fallait pas être un Mishnah Berurah pour voir les miracles au Beit Amikdash. Au Beit Amikdash, tout le monde qui venait, il voyait le miracle. Il y a plein d'exemples. La Mishnah, elle cite 10 miracles. Que pour les citer, il y en avait plein d'autres en vérité. Par exemple, tout le monde pouvait voir ça de leurs yeux. On venait au Beit Amikdash, le jour de Kippour. On voyait qu'on était très serré. Imaginez-vous un endroit où vous êtes très serré. Vous êtes très serré, vous n'arrivez même pas à bouger un pied. Arrivé le moment dans lequel le Kohen dit Vanachno Korim ou Mishtachavim, on se prosterne. Fallait se prosterner. Tout le monde se prosternait avait de la place. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. C'est pas possible. Si debout on est serré, c'est pas possible qu'on se prosterne et qu'on ait de la place. C'est impossible. Parce que l'espace était fermé. C'est un espace fermé. On connaît. C'est-à-dire qu'il y a des murs qui ne bougent pas. Donc, ce n'est pas possible. Plein de miracles. Prenez par exemple aussi un autre miracle qu'il y avait là-bas. C'est que dans tout le temple, on n'a jamais vu une mouche. Ce qui est impossible. Vous allez dans n'importe quel abattoir, même les abattoirs high-tech, haute technologie, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de mouche. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mouche. Pas une seule mouche. On n'a jamais vu dans tout le temple une seule mouche. Vous savez les tonnes de viande qu'il y avait là-bas. Et en plus, il n'y a pas de frigo. Pas de frigo. La chaleur de Jérusalem en été. D'accord? Pas une seule mouche, jamais une viande n'a pourri. Comment tu expliques ça? Comment tu m'expliques? Hein? Quoi? Non, pas du tout, il y avait des viandes justement. Ah non, il y avait des viandes qu'on mangeait pendant 3 jours. Je te garantis qu'aujourd'hui à Jérusalem, tu prends une viande, tu la laisses un jour dehors dans la chaleur. C'est fini, elle est tournée. T'as aucune chance.
Il paraît qu'au mur de l'alimentation, il y a des hirondelles qui tournent en permanence.
Ah bon?
Il n'y a aucune éjection.
D'accord.
Il n'y a aucune éjection.
Ah bon?
Ou au mur?
Ouais,
moi j'en ai pris une.
Ah bon, du coup. Tu pouvais pas taire, toi.
Non, mais justement, c'est parce que c'est pour pas que ça tombe par terre, c'est lui qui l'a.
Voilà, Kol HaKavod, voilà.
Tu connaissais, pas. Une fois, dans un magazine aux États-Unis, il y a une publicité. La prophétie d'Isaïe s'accomplit dans notre zoo. Le loup cohabite avec l'agneau. Donc tout le monde, les touristes, ils viennent et tout le monde vient pour voir le loup cohabite avec l'agneau. Alors une fois, il y en a un qui lui pose la question, il lui dit, bon, c'est vraiment extraordinaire, mais nous on sait que le Messie n'est pas venu, alors comment tu fais pour... Il dit, c'est pas compliqué, tous les jours je mets un nouvel agneau. Il a dit, c'est pas compliqué, tous les jours je mets un nouvel agneau. Avec les entrées. Bon, revenons à notre sujet.
On a le mouton.
À nos moutons. De Razak. Donc tout ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash... Effectivement, comme on a dit, l'énergie, donc la Shrina était visible. Donc, on voyait les choses clairement. Tu es une Beth Amikdash, tu voyais les choses clairement. Et de façon générale, les gens voyaient directement la corrélation entre ce qu'ils faisaient et ce qui leur arrivait. Aujourd'hui, on arrive très difficilement à le voir. C'est-à-dire, des fois, t'as un truc qui t'arrive, tu cherches un peu, tu dis, ah, j'ai compris, certainement que peut-être, c'est un appel de faire de Dieu pour ce que j'ai fait. C'est-à-dire, on fait tout seul les rapports, mais c'est très compliqué. Enfin, des fois, tu as un rapport, tu trouves pas, ou tu trouves, et c'est trop compliqué. À l'époque, c'était classique. C'est-à-dire, le gars, il faisait un écart, le lendemain, il prenait une petite réra, et croit les dimanches, c'est bon, j'ai compris. Il dit, moi, je me suis rangé, c'est bon. C'était comme ça à l'époque. Ça, c'était à l'époque du Beit HaMikdash. Véaz, et alors, à cette époque. Alors, c'est très fort ce qu'il va dire ici. À cette époque, l'énergie divine qu'on recevait, qui nous faisait vivre, venait passer, transiter que par notre âme divine. C'est-à-dire qu'il y avait un seul canal. Ça passait par l'âme divine. Donc, soit tu te comportes bien, ça passe. Si tu te comportes mal, ça passe pas. Nigmar. Finito. Donc, c'était pas compliqué. Il y avait un seul canal d'énergie. Tu passes, tant mieux. Il avait l'exclusivité. Ça, c'était à l'époque.
La suite, ça va.
Donc, ah, cependant, en bas de la page, la chère de Madrigata, une fois qu'on est descendu de notre niveau, malheureusement, on a quitté notre rang élevé. Et à cause de nos fautes, on a renvoyé la Shrina. C'est-à-dire qu'avant, la Shrina était là. La Shrina, c'est que quand on parle de présence divine, c'est de quoi présence divine? Ça veut dire quoi que Dieu est là? Dieu est là, ça veut dire que tu comprends, que tu vois clairement la corrélation entre ce que tu fais et ce que tu as. Mais si on te dit que la Shrina est en exil, ça veut dire quoi? Que la présence divine est en exil? C'est-à-dire que tu ne vois plus la corrélation directe entre ce que tu fais et ce que tu vis. Que Moshe Katou, comme il est écrit dans Isaïe.
Normalement, c'est maintenant qu'elle devrait se produire et non pas au moment.
Eh ben non, justement. C'est ça l'enjeu principal de l'exil. C'est quand le père se cache tellement. Si vous voulez, je vais donner un exemple avec un père et un fils. T'as le fils qui habite chez son père. Le fils qui habite chez son père. Il sait, il se comporte comme il faut, il aura une récompense. Il se comporte pas comme il faut, il aura une punition. Il le sait. Donc au moins c'est clair. Il n'y a pas où aller. Il le sait. Et quand il a fait une bêtise, il sait qu'il y aura une punition, mais à la limite c'est rassurant parce qu'il dit bon, j'ai compris, il y a une relation. Je sais que ben, là je reçois et là je paye. C'est comme ça. C'est la vie. Mais imaginez son père, il lui dit, il fait une bêtise, tu sais quoi ta punition? Je vais te mettre dehors de ma maison. Je vais continuer à m'occuper de toi. Toi tu sentiras rien. Tu feras des bêtises, personne ne te punira. Tu feras des bonnes actions, personne ne te récompensera. Moi, pas t'arrêter, je déciderai quand je recommence, quand je punis, mais tu ne me verras pas. C'est la pire des punitions, ça. La pire des punitions, c'est quand le père se manifeste plus.
C'est
l'ignorance, exactement. C'est horrible. Je préfère que tu mettes une très rame et tu me regardes. Tu dis, bon, voilà, je suis ton père, je vais t'occuper de toi, je t'ai puni. Le pire, c'est quoi? C'est quoi, dehors de la maison, je ne te connais plus, tu n'existes plus. Fais ce que tu veux.
Alors pourquoi il nous met dans cette situation?
Eh ben, c'est l'exil. C'est ça l'exil. L'exil, c'est ça. L'enjeu principal de l'exil, quand on dit que la Shrina est en exil, ça veut dire qu'on ne voit plus Dieu. On ne voit plus.
Excusez-moi.
Alors, je termine le raisonnement, deux secondes. Comme il est écrit, qu'à cause de vos fautes, vous avez renvoyé votre mère. C'est qui notre mère? C'est la Shrina. Da'inu, ça veut dire. Alors, si on prend l'idée de la Kabbalah. Rappelez-vous, on a dit le hé d'en haut, c'est Hachem. Yud, ke, vav, ke. Le hé d'en haut, c'est Hachem. Le hé d'en bas, c'est nous. Et là, le hé d'en bas, on l'a renvoyé en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Da'inu she yarda ashparat prinat hé tata anal. Venishtal shelam madrigal madrigal mata mata. Elle est descendue extrêmement bas de degré en degré. Achenitlapshash pata butsiro de noga. Amashpiot shefavirot le demazalot. Vrotzva sarim. Hachemaim vassarim shaleem. En fait, ce qui se passe, c'est que notre énergie est descendue tellement basse qu'où elle est maintenant? Maintenant, elle est liée au Klipot Noga, je vais expliquer ce que ça veut dire, qui dispense le flux et la vitalité aux astres et à tout ce qui vit dans ce monde. C'est-à-dire que, je vais expliquer ce que ça veut dire. Avant, quand on avait le Beit HaMikdash, le juif avait un seul canal d'énergie. Ou tu reçois directement, ou tu reçois pas. Dehors. Maintenant, depuis le Beit HaMikdash, c'est différent. On te dit, dorénavant, il y a deux canaux. Tu as soit un canal direct, c'est-à-dire celui qui se comporte comme il faut, il reçoit par un Kadosh Baruch Hu, et encore, il faut qu'il le voie. Ou bien, tu as le canal indirect. C'est quoi le canal indirect? C'est par les astres. Comment ils vivent les goïms? Comment ils vivent la lune? Comment ils vivent les étoiles? Comment ils vivent? Comment ils vivent? Ils vivent par une énergie divine. C'est l'énergie divine à laquelle on ne pose pas de questions. Le problème, c'est que l'énergie du canal B, de deuxième canal, par qui elle est alimentée? Elle est alimentée par nous. Par nos fautes. Alors là, je vais vous expliquer la catastrophe. Ça, c'est le canal plus, ça, c'est le canal 2, ça. D'accord? Donc le canal 1, c'est le canal classique, c'est l'autoroute, les mitzvot. Le deuxième canal, c'est le canal qui fait vivre tout le reste de la planète, etc., dans lequel Dieu n'est pas très regardant. Le problème, c'est quoi? C'est que le juif, quand il fait une avéra, est un fournisseur majeur des forces du mal. Donc lorsque les forces du mal voient que ce juif, il fait une faute, qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est un grand fournisseur, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ben, on va te donner des cadeaux. On va te donner des cadeaux, comme ça tu vas continuer à nous fournir. Maintenant, lui, il reçoit la Ferrari, il reçoit la Porsche, hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Il a une écurie.
Il a une bonne étoile.
Hein?
Il a une bonne étoile.
Il a tout ce qu'il veut. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que d'où vient cette écurie? Après, on va expliquer que tout aura une fin, finalement. Ce n'est pas à vitam eternam, ça. Mais d'où vient tout ça? Des forces du mal.
Du mal?
Oui. Parce que comme lui, il alimente les forces du mal, les forces du mal lui dit, tiens, on vient, on te paye, comme ça tu continues à nous payer. Voilà. Un juif qui fait une avéra, il alimente les forces du mal. Je vais expliquer ce que je veux dire avec un exemple.
Et plus fort encore.
Mais c'est très fort ce qu'on est en train de dire. Ouais, je vais expliquer ça avec un exemple. L'exemple qui est ramené dans Chassidut.
Faire du mal et recevoir du bien, c'est formidable. Mais
non, on redonne.
Je vais expliquer ça avec un exemple. Laissez-moi expliquer. Il y a une fois un roi qui a organisé un festin. Qui l'invite à ce festin? Certains ministres, triés sur le volet. Ceux qui le méritent.
Les fidèles
parmi les fidèles. Ça veut dire que un ministre qui n'est pas proche du roi, il n'est pas invité, il est dehors. Les serviteurs ne sont pas invités. Personne n'est invité, à part les fidèles parmi les fidèles. Le roi fait le festin. Un grand festin dans lequel il invite les fidèles parmi les fidèles. Ils vont être 10 personnes à table. Une fois qu'ils ont fini, évidemment, ils n'ont mangé même pas le quart de ce qui a été préparé. Donc il reste. Qui va prendre les restes?
Les serviteurs.
Ils vont faire les restes. Maintenant même, il y en a tellement à manger que même les serviteurs, quand ils ont mangé les restes, ils restent encore. À qui on va donner? Ils vont mettre dans les poubelles. Qui va manger dans les poubelles? Les chiens. Après, même les chiens, ils ont tellement mangé qu'il n'y a plus rien à manger. Qui va manger le reste?
Les rats.
Et à la fin, qu'est-ce qui arrive à la fin? Les fourmis. Maintenant, attendez, deux secondes, on va réfléchir ensemble. Donc ça veut dire qu'en vérité, dans l'absolu, le roi nourrit les fourmis.
Indirectement.
Oui. Indirectement, oui. Parce que de quoi on mangeait les fourmis? De ce que le roi a préparé. Mais la seule différence, c'est que les rats, les chiens et les serviteurs ont mangé indirectement. Alors que les ministres ont mangé directement. C'est-à-dire que eux, ils ont été invités. Non, c'est pas un premium. Peut-être que l'autre, il a mangé la même viande.
Mais c'est la même viande.
C'est la même viande. Seulement, il y a une viande. Le ministre, il a reçu la viande avec le sourire. Et il fallait la mériter. Alors que le serviteur, il a reçu la viande par derrière. Ça s'appelle achoraim. Il a reçu par derrière. Et il n'a pas besoin de la mériter. C'est pas, on dit celui qui s'en bat bien. Il prend ce qu'il veut. La formule de la mérité, le chien de la mérité. Alors ça, c'est un exemple qui est expliqué et qui est ramené en chassidoute pour expliquer la différence qu'il y a entre le canal 1 et le canal 2. Dans le canal 1, celui des mitzvot,
il est invité.
Il faut être invité. Et si tu ne te comprends pas comme il faut, Hachem, il te dit dehors de la table. Va dans ta chambre. Et tu manges pas. Dans le canal 2, écoute, il y a des restes. Tu veux manger, tu manges, il n'y a pas de problème. On ne te demande pas des comptes. On demande au chien, est-ce que tu as un bon chien, un mauvais chien? Il y a à manger, il mange. À l'époque du Beth Amikdash, le canal exclusif par lequel on vivait, c'était le canal 1. Donc celui qui se comportait bien, ça marchait. Celui qui ne se comportait pas, va dans ta chambre.
Voilà.
Hein? Deux secondes. Une fois que le Beth Amikdash était détruit, dorénavant, il y a deux canaux. D'accord? Dorénavant, il y a deux canaux. T'as le canal 1, dans lequel effectivement tu peux mériter, et t'as le canal 2. Canal 2 dans lequel tu peux manger comme un chien.
Ah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun individu peut accéder au canal 1
ou on Si, on peut accéder, mais c'est difficile d'accéder au canal 1. On peut accéder au canal 1, mais il y a le canal 2. C'est quoi le canal 2? Tu manges comme un chien. Ça veut dire, tu dis, moi je regarde pas le roi, je mange dans les poubelles. Personne ne te posera de questions quand tu manges dans les poubelles. On va pas demander qu'est-ce que t'as coûté, qu'est-ce que t'as pris, qu'est-ce que t'as payé, t'as pas payé. Tu manges dans les poubelles. Maintenant, ce qu'ils mangent dans les poubelles, ça peut être très bon. C'est la même viande. C'est exactement la même viande. C'est la même viande qui était servie à table. Mais sur celle-là, on ne pose pas de questions. T'as pas besoin de la mériter. Tu prends, tire-toi. Seulement, une, on te la donne de visage, de panim, on te la donne avec le sourire. L'autre, tu l'as prise alors qu'on te l'a panée. Alors voilà ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, ça passait que par le canal 1. Maintenant, on peut passer aussi par le canal 2. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un juif, lorsqu'il fait une avéra, il devient un grand fournisseur. Donc quand il devient un fournisseur, dans l'exemple, il n'y a pas cette idée de fournisseur. Mais dans le fournisseur, imaginez par exemple que il y a un homme qui tombe parmi les chiens et qui leur donne à manger. Maintenant, les chiens, quand ils trouvent des bons morceaux, ils l'amènent à qui? Ils l'amènent à l'homme, parce qu'ils lui disent, toi, t'es un bon fournisseur. Donc, on a trouvé un bon morceau pour toi, on va te bichonner. Comme ça, tu vas continuer à venir nous donner. On veut pas que tu deviennes religieux. Parce que si tu deviens religieux, tu vas arrêter de nous fournir. Et de quoi se fournissent les forces du mal? De quoi se fournissent les forces du mal? Elles se fournissent de nos fautes. Si on cesserait tous de fauter, les forces du mal cesseraient d'exister une fraction de seconde. Elles n'ont pas raison d'être.
Et l'inverse, alors, celui qui fait des mitzvot,
et ben celui
qui ne mange pas.
Celui qui fait quoi?
Celui qui fait des mitzvot et qui ne mange pas.
Non, j'ai pas dit qu'on. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de. Effectivement, quand on est en exil, on ne voit plus la corrélation directe.
Non, mais moi, je te parle de celui qui fait des mitzvot.
Ben, ça veut dire que le canal 1, il est très difficile d'accès. Et que des fois, on n'arrive pas à l'accéder. C'est la question. À l'époque du Beth Amikdash, le canal 1, il était tout le temps ouvert. Tu ouvres, tu prends, pas de problème.
Alors, si c'est tellement sacralisé comme ça, comment ça se fait qu'il a été détruit? Puisqu'il présente autant.
Mais c'est de notre faute!
Mais non, c'est pas si. Les fautes à ce moment, pas comme aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Hier, on était directement liés.
Mais justement, c'est ça le problème. C'est que, par nos fautes, on a renvoyé la Shrina. Donc, comme on a viré la Shrina, donc tout est balagan dans le monde. C'est pas clair. Vous savez, dans le monde, c'est très difficile. On sait pas qui a raison, qui a pas raison. C'est tellement compliqué en politique, en géopolitique, et dans le reste. On sait pas qui dit vrai, qui dit faux, qui a raison, qui a tort. Alors nous, on a une façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, prenez la guerre entre, c'est fini maintenant, mais prenez la guerre entre les États-Unis et Daesh. Daesh, il dit, l'Amérique, c'est le Satan. Les États-Unis, ils disent, Daesh, c'est le Satan. Et les deux, ils tirent les uns sur les autres. Qui a raison?
Les États-Unis.
Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? T'es un koufar, t'es un incroyant. Alors, a priori, joue a priori. Parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils ont plus d'argent.
Non, pas tout,
non. C'est compliqué. Quand on est en exil, les choses sont pas claires. Pourquoi ils sont partis aux États-Unis? Pourquoi ils sont partis en Irak, les États-Unis? Pourquoi ils sont partis là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont perdu là-bas?
Perdu, ils voulaient faire de l'argent.
Pour faire la justice dans le monde?
Pétrole. Ramener du pétrole.
Donc c'est du vol?
Oui. C'est du vol organisé.
Ouais. C'est un vol en bande organisée. C'est un crime de l'humanité. Non, je rigole, évidemment, vous inquiétez pas. Je ne suis pas converti.
Pourquoi les Français sont au Mali?
Exactement. Qui sont perdus là-bas?
Oui, mais on te répondra, ils sont au Mali parce que le Mali a fait appel à la France.
Oh! Parce que la France a fait en sorte que le Mali a besoin d'eux.
C'est pas parce qu'ils l'appellent qu'ils vont venir, hein. Moi, s'il y a rien à manger, j'y vais.
Demandez
pas.
À Egal, il va vous expliquer comment ça marche.
Il y a des matières.
Il y a que de la manipulation dans tout ça. C'est que de la manipulation.
Tout le monde crie au complot.
D'accord? Alors, sortez vos gilets jaunes. Tout le monde crie au complot.
Je voulais en revenir.
Alors, oui, vas-y. Il faut qu'on s'arrête parce que c'est déjà l'heure. On continue
quand même. Ce qui est quand même pas très logique, c'est que aujourd'hui nous sommes en exil. Donc on subit finalement, nous, descendants, des fautes qui ont été faites il y a des siècles. Par
nos parents.
Par nos parents, nos arrières. Nous, on est victimes de ça.
Non, mais c'est nous, c'est notre âme. Nous sommes des réincarnations, c'est notre âme. C'est mon âme qui était là il y a 2000 ans qui a fait cette bêtise.
D'accord.
Ah oui. C'est pas le béton, c'est la réalité.
On le paye. Ouais. Ensuite, on nous bande les yeux.
Non, on te voit pas les yeux. C'est encore pire que de demander les yeux.
Ah, j'ai pas fait. Alors, je vais là.
Justement, c'est encore pire. C'est pas qu'on te bande les yeux. On te dit tu le vois plus.
Alors.
Ça veut dire, on te dit, tu sais quoi? Faute! Tu auras ce que tu veux.
On te bande les
yeux. C'est horrible.
Attendez. On te bande les yeux. On te met dans un labyrinthe. Et puis, t'arrêtes pas de te cogner. Bim! Et t'en prends une sur la tête. Et bim! Ah, tu vois, là. C'est pas bien. T'as cassé le mur. T'as cassé la porte. T'as cassé ça. Bah, tu vois. Bim! Encore une deuxième par derrière.
C'est ça, l'exil. Mais ce qu'il faut savoir.
Est-ce que, quelque part,
c'est que même pour le mécréant en Ferrari, ça a quand même une fin. Ça s'arrêtera un jour. Mais bon, ça, on verra la semaine prochaine.
Je veux pas rapport à la Ferrari. Je veux pas rapport à la Ferrari.
Non, mais non, ce qui te dérangeait, c'est-à-dire celui qui est là, qui est le grand mécréant, court en rachat et. Et puis dans l'opulence.
Il a l'argent, on y va voir l'opulence.
Il a l'argent.
Il fait des avéras le matin au soir.
Il a un canal B.
Il ramasse les miettes.